Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit : Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu.
La mort est aveugle, le malheur est aveugle et frappe n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Des gens qui voulaient offrir un sacrifice au Seigneur vont au temple à Jérusalem et puis ils sont pris dans un massacre que Pilate organise. Pilate était un homme sanguinaire, un tyran, on le savait, le mal est aveugle. D'autres construisaient une tour ou allaient à la piscine de Siloé pour s'y purifier, pour s'y baigner. Et puis c'est l'affaire de cette tour qui s'écroule, qui écrase une quantité de gens. Ces exemples sont pris au temps de la vie de Jésus, mais on pourrait les multiplier aujourd'hui dans tous les domaines. Le mal qui frappe, la souffrance, la mort. Il y a le mal provoqué par les tyrans. Tyrans d'aujourd'hui, il y en a pas mal, un peu partout. Le mal provoqué par les guerres, par les hommes en général, par les pécheurs. Vous en mémoire particulièrement aujourd'hui de ces crimes qui ont été commis, qui ont touché des enfants dans l'Église. Il y a le mal provoqué par les catastrophes, par la maladie, par tous ces drames du monde, les inondations, les tremblements de terre, des séismes de toutes sortes. Et la question revient toujours, et la question n'est jamais complètement résolue. Nous la posons toujours d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi moi ? Et puis, où est Dieu ? Que fait Dieu ? Mais quand même, il pourrait faire attention, quoi. Des familles qui ont été terriblement éprouvées. Un enfant qui est mort, 2 enfants qui sont morts, 3 enfants qui sont morts. Quand même, le bon Dieu aurait pu les épargner. Il aurait pu, enfin, je sais pas, il aurait pu, quoi, toucher une autre famille. Ben non, mais quand même, c'est pas très sympa. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? C'est vrai que c'est une question terrible. C'est une question qui nous ronge parfois. Il n'y a pas de réponse à la question pourquoi. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de réponse à la question pourquoi. Ce n'est pas la peine de poser la question, il n'y a pas de réponse. Et d'ailleurs, Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas à cette question quand on l'interroge. Jésus simplement appelle à la conversion. Vous voulez dire que ces gens-là étaient des plus grands pécheurs ? Pas du tout, pas du tout. Les gens qui sont morts, les gens qui ont été frappés par le malheur, par la souffrance, ne sont pas plus pécheurs que les autres. Et définitivement, Jésus déconnecte le mal de la responsabilité personnelle. Ce n'est pas parce qu'il vous arrive un malheur que vous avez fait quelque chose de pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Rien ! Jésus nous appelle à la conversion. Jésus saisit cette occasion pour dire, voyez, ces gens-là sont morts, eh bien oui, convertissez-vous. Sinon, vous allez subir tous le même. De toute manière, tout le monde va mourir. Alors on pourrait dire, mais le bon Dieu quand même aurait pu supprimer la mort, puisqu'il est tout puissant. Et la belle affaire, un enfant s'électrocute parce qu'il met ses doigts dans la prise, alors vous supprimez le courant dans la maison. C'est une solution, mais ce n'est pas celle que Dieu choisit. Mieux vaut protéger l'enfant et puis lui apprendre à se servir du courant quand il deviendra grand, de façon intelligente et responsable. Dieu pourrait supprimer la vie qu'il a donnée en disant « Allez, terminé, j'arrête ». Non, Dieu ne supprime pas ce qu'il a fait parce qu'il avait vu que c'était très bon. Dieu veut éduquer son peuple, Dieu veut apprendre à son peuple à vivre bien, à vivre en enfant de Dieu. C'est ça la conversion. Dieu veut nous apprendre à chacun d'entre nous à vivre dans son amour, à vivre de sa parole. Et la Bible, c'est cette grande histoire où Dieu se révèle à l'homme. C'est vrai, l'homme a usé de sa liberté pour quitter Dieu. C'est l'histoire du premier homme, mais c'est mon histoire à moi. J'utilise ma liberté, finalement, en tuant ma liberté. Chaque fois que je tourne le dos à Dieu, chaque fois que je m'enferme sur moi-même, chaque fois que je veux prendre au lieu de donner, chaque fois que je cherche le plaisir au lieu de chercher l'amour, je m'enferme et je m'enferme dans la mort. Alors Dieu se révèle comme l'origine de tout amour. Dieu se révèle infiniment proche de son peuple. C'est l'histoire que nous avons relue dans le livre de l'Exode, première lecture. Moïse était en train de garder les troupeaux de son beau-père quand il découvre ce buisson ardent, ce buisson qui brûle sans se consumer. Dieu est présent, Dieu, feu de Dieu, feu d'amour, est présent au milieu de son peuple, au milieu de l'humanité, sans détruire cette humanité, sans, au contraire, il est source de toute lumière, il est source de toute vie. Il est. C'est comme ça qu'il se présente, c'est comme ça qu'il se nomme. Quand Moïse lui demande « Mais qui m'envoie ?» Je pourrais dire, quand les gens vont me demander « Mais quel est ton Dieu ? Comment s'appelle-t-il ? » Tu lui diras « Je suis, c'est je suis qui t'envoie. » Dieu est, basta. Jésus le dira d'ailleurs aux pharisiens qui l'interrogent « Mais qui es-tu ? » « Je suis, je suis. » Et la deuxième chose que Dieu dit dans le buisson ardent à Moïse et qu'il nous dit en permanence aujourd'hui, « J'ai vu, oui, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je sais la misère de ceux que j'aime. » Dieu a tellement vu cette souffrance. Dieu a tellement conscience de cette misère des hommes. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit non pas jugé, mais sauvé par lui. Il envoie son Fils lui-même. Et son Fils, Jésus, non seulement ne va pas supprimer la souffrance ou la mort, il va se soumettre délibérément à cette souffrance et à cette mort. Jésus, c'est vrai, c'est un mystère insondable. Mais il faut entrer dans le mystère. Jésus se soumet lui-même au mal. Il se soumet lui-même aux hommes pécheurs. Il se soumet lui-même à l'injustice. Il va jusqu'à descendre dans l'abîme de la souffrance pour connaître la mort. Mais Jésus est amour, l'amour incarné. Il est la vie. Et la mort ne peut pas retenir la vie. La vie est plus puissante. La mort est feintée, la mort est foutue, la mort est détruite. La mort est détruite parce que celui qui est la vie, celui qui est l'amour, est descendu dans la mort. Lui, il est mort non pas parce qu'il a péché, non pas parce que c'est une pénitence pour lui, il est mort parce qu'il a donné sa vie, ça renverse tout. La mort n'est plus un mur qui est enferme, la mort est devenue une porte d'entrée dans la plénitude de la vie, la mort est devenue la porte d'accès à Dieu, la porte d'accès. Vous voulez vivre ? Alors il faut mourir. Peu importe la façon dont vous allez, pourvu que vous mouriez par amour et non pas à cause du péché. Dieu est celui, nous l'avons chanté dans le psaume, qui est lent à la colère, plein d'amour, de tendresse, de pitié. Il patiente, il est comme ce jardinier qui renonce à couper le figuier, qui ne donne pas de fruits. Non, encore un an, je vais bêcher autour, peut-être qu'il va finir par donner du fruit. Dieu patiente devant le pécheur. Dieu n'est pas impatient. Et peut-être que la plus grande chose qui voudrait retourner en nous, c'est la vision que nous avons de Dieu, c'est l'image que nous avons de Dieu, c'est l'idée que nous faisons de Dieu. Nous imaginons que Dieu est en train de nous surveiller, que Dieu est sur son siège très élevé, en train de dire « c'est pas bien ce que tu as fait, alors je vais te punir » ou « je vais te... » Mais non, Dieu est amour, Dieu est tendresse, Dieu vient pleurer avec moi, Dieu patiente pour m'apprendre peu à peu cette conversion du cœur. « Je ne veux pas la mort du pécheur, dit-il dans l'Écriture, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. » Finalement, c'est l'urgence de la conversion qui est importante. C'est la seule chose qui compte. La seule réponse au mal, la seule réponse au mal, quel que soit ce mal, c'est la sainteté. La seule réponse aux guerres de notre temps, c'est la sainteté. La seule réponse aux crises économiques, c'est user saintement des moyens que Dieu nous donne pour produire du fruit et pour permettre à l'humanité de vivre dignement. La seule réponse à la crise écologique qui est angoissante, qui est terrible, c'est la sainteté. User avec intelligence et prudence de ce que Dieu nous donne pour en faire produire les fruits et pour partager les fruits avec les autres. La seule réponse à l'islam ou au danger de l'immigration, c'est la sainteté. La sainteté qui accueille, la sainteté qui patiente, la sainteté qui propose la vérité. Il ne s'agit pas de dire tout le monde est gentil, tout le monde est bon, tout le monde est de se laisser... Mais non, il ne s'agit pas de ça. La vérité est importante, la vérité est capitale, c'est la vérité qui vous rendra libre. Mais la vérité dans l'amour, la vérité avec charité, la vérité dans la sainteté, la seule force qu'on puisse opposer aux armes, c'est la sainteté du cœur. Peut-être qu'il faut se défendre avec des armes. Et celui qui vous parle était un ancien officier. Oui, Dieu n'a pas condamné le soldat romain. Dieu n'a pas condamné le centurion. Le métier des armes, c'est contenir la violence pour éviter aux autres d'y être confrontés. Et c'est bien nécessaire d'avoir des armes, mais dans la sainteté. Si vous n'aimez pas celui contre lequel vous vous défendez, vous utilisez les armes de l'ennemi et vous êtes violence contre violence, le mal augmente. Si vous n'aimez pas celui qui est en train de vous détruire, alors vous augmentez la violence, parce que la violence gagne votre cœur. Il faut agir, oui, il faut agir. Il faut se défendre, oui, il faut se défendre, mais dans la sainteté, sinon c'est stérile. Autour de Jésus crucifié, il y a deux larrons. Un bon et un mauvais. Jésus aime le mauvais larron autant que le bon. Jésus aime les pharisiens ou les grands prêtres qui l'ont condamné autant qu'il aime Jean ou Paul ou Pierre. Jésus nous propose ce renversement radical. C'est une véritable révolution à laquelle Jésus nous invite. Bénissez ceux qui vous persécutent. Dites du bien de ceux qui vous disent du mal. Aimez ceux qui font... Aimer les pécheurs, c'est ça qui renverse le monde. C'est ça, il n'y a que ça qui puisse faire la paix. Il n'y a que ça qui puisse produire du bonheur. Il n'y a que ça qui puisse nous conduire à la joie. Il n'y a que ça qui puisse nous consoler du mal et de la souffrance. Oui, nous allons pleurer. Oui, nous allons souffrir. Mais tout le monde souffre. Personne n'est à l'abri de la souffrance. Et encore une fois, Dieu ne peut pas supprimer la souffrance, sinon il supprime la conséquence du péché. S'il supprime la conséquence du péché, il veut dire que le péché n'est rien. Il supprime notre liberté. Il nous traite comme des enfants gâtés, il nous traite comme des petits-enfants. Dieu veut nous traiter comme des adultes. Dieu veut nous traiter comme des gens responsables. La souffrance est entrée dans le monde et elle augmente chaque fois que la violence augmente. Elle augmente chaque fois que le péché gagne. Mais chaque fois que la sainteté gagne, la souffrance recule parce que la souffrance devient source d'amour invraisemblable. Nous le touchons du doigt parfois dans certaines familles éprouvées, dans certains cas où le malheur a touché, mais ce malheur est source d'un amour nouveau, d'un amour renouvelé, d'un amour plus puissant. Les deux larrons meurent, le mauvais comme le bon, mais l'un meurt dans son angoisse et dans sa colère, il meurt dans la violence, c'est dramatique. L'autre meurt dans la paix, dans une torture épouvantable, c'est affreux d'être crucifié, mais il meurt dans la paix parce qu'il est sauvé, et le jour même, Jésus lui a promis le paradis. Attention, dit saint Paul, les Hébreux aussi ont été libérés de l'esclavage d'Égypte. Ils ont vu à l'œuvre la puissance de Dieu. Ils ont vu à l'œuvre les merveilles de Dieu qui les fait passer la mer Rouge à pied sec, qui leur donne la nourriture dans le désert, qui leur donne le breuvage du rocher. C'était le Christ, dit saint Paul. Et pourtant, ils sont tous tombés dans le désert. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à la terre promise parce qu'ils ont cédé sans cesse à cette tentation de retourner en Égypte. Ils se convertissaient des lèvres, du bout des lèvres, mais leur cœur n'était pas converti. Alors ils continuaient à marmonner contre Dieu. Ils continuaient à critiquer Dieu. C'est pour nous faire mourir dans le désert qui nous a fait sortir d'Égypte. Finalement, le péché servait du bon. Finalement, les oignons d'Égypte, c'est tentant. Ben oui. Le mal a toujours quelque chose de tentant, le péché a toujours quelque chose de jouissif, sinon on ne le ferait pas. Est-ce que je préfère la jouissance qui est liée à la souffrance de l'exigence de l'amour, ou est-ce que je préfère la jouissance qui est liée au péché? Il y a toujours un choix à faire, une décision à prendre. Et le carême, c'est le moment où il faut se décider. Quand on devient catéchumène, quand on entre sur le chemin de la foi, on prend la décision de se convertir, de choisir l'exigence de l'amour. C'est une exigence difficile. La joie est toujours du côté de l'exigence. Cette semaine, nous allons fêter la Vierge Marie dans son Annonciation. L'Annonciation, c'est Marie qui dit oui. Elle ne dit pas oui en étant soumise à Dieu impitoyable. Elle dit oui par l'adhésion de son cœur. Elle dit oui par le consentement de tout son être au projet de Dieu. Elle dit oui à Dieu qui veut prendre chair en elle. Elle devient disponible. Elle se laisse toucher. Elle se laisse habiter. Oh, la Vierge Marie souffrira. Un glaive lui transpercera l'âme. Mais elle est reine du ciel et de la terre parce qu'elle a gagné la victoire avec lui, par lui, en lui. Demandons la Vierge Marie cette semaine et pendant tout ce carême et pendant toute notre vie, et spécialement pour nos catéchumènes, demandons à la Vierge Marie de nous apprendre ce oui, un oui plein, un oui entier, s'il pouvait être définitif, mais qu'il soit renouvelé chaque jour pour que ce soit réellement un état de vie pour nous. Amen.